Ben, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais vous présenter un petit peu la série qui s'appelle La Brigade Chimérique, dont vous avez peut-être déjà soit lu tous les albums, soit vu les magnifiques pages qui sont exposées sur votre droite, gauche. Et je vous présente une partie des auteurs de La Brigade Chimérique, puisque la coloriste n'est pas présente. Mais nous avons donc Jess au dessin, Fabrice Collin, co-scénariste, et Serge Lehmann, co-scénariste aussi. Il s'avère qu'en fait je suis auteur moi aussi, je tenais à le préciser, non pas pour me la ramener, mais parce que c'est la première fois que je suis modérateur, et je voulais un peu expliquer pourquoi j'ai accepté d'être modérateur sur ce débat, pourquoi j'avais assez envie de le faire en fait. Il y a une très belle image qui est utilisée par les auteurs de La Brigade dans le troisième album. Alors, il ne faut pas que j'en dise trop, puis je vais quand même en dire un peu. Enfin, il est question de l'incarnation de certaines facettes de la psyché humaine. Une incarnation très graphique. Et j'allais dire que d'une certaine manière, moi, en tant qu'auteur qui découvre le travail d'autres auteurs, j'ai en moi des incarnations un peu similaires, à savoir en particulier deux facettes. Il y en a une d'elles, c'est quelqu'un de très enfantin. Un gamin qui est celui que j'étais comme lecteur enfant, émerveillé par tout ce que je lisais, complètement heureux à chaque fois que je découvrais des auteurs. Et puis un autre personnage que j'appellerais peut-être, je ne sais pas, docteur critique ou quelque chose d'un petit peu plus dur, qui s'est développé avec le temps, en particulier parce que je suis devenu auteur et que je suis donc devenu un peu plus critique sur le travail des autres. Et malheureusement, en tant qu'auteur, souvent... Là, je parle de la profession en général, on a tendance à laisser parler beaucoup plus vite docteur critique, c'est-à-dire qu'on a assez tendance à dober sur le travail des autres. Et quand j'ai découvert La Brigade Chimérique, mon premier réflexe, c'était la facette critique, de me dire, oui, je vois des influences, je vois Mignola, je vois Alan Moore, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, et puis c'est là que j'ai complètement viré de bord d'un coup. Je me suis dit, wow, Alan Moore et Mignola, déjà, ce mix-là, c'est incroyable, quoi, d'avoir pensé à ça. Et il m'est arrivé quelque chose qui m'arrive en fait assez rarement, justement, du coup, en tant que méchant auteur critique qui dope sur ses camarades. Je suis retombé dans le côté très enfantin que j'avais à découvrir des séries quand j'étais gamin. Mais je trouve ça tellement rare et tellement chouette que j'ai voulu un peu participer à ça. D'ailleurs, c'est une manière comme une autre d'essayer de ramasser les miettes d'un succès à venir. Parce qu'à défaut de pouvoir dober dessus, maintenant, je vais essayer de faire celui qui a découvert avant tout le monde la Brigade Chimérique. Donc voilà, c'est avec beaucoup, beaucoup de bonheur que je vais essayer de modérer ce débat. Enfin, je ne pense pas que ça va être un catch sur scène, mais en tout cas d'essayer de faire passer la parole. Et je voulais commencer par Serge, parce que je ne crois pas me tromper en disant que tu es l'initiateur du projet. Et si tu pouvais le plus rapidement possible évoquer de quoi parle La Brigade Chimérique pour les personnes peut-être qui ne connaîtraient pas la série.
Je vais essayer de le faire sans trop vendre la chose, hein, en essayant de la rattacher à son noyau culturel, puisque il y a une ambition au départ qui est purement culturelle. La Brigade, elle essaye de répondre à une question toute simple qui est une question que je me suis posée quand j'ai commencé à lire de la bande dessinée, en particulier la bande dessinée américaine, les comics américains dans les années 70. Je lisais Strange et j'ai très très vite m'a frappé le fait que toutes ces histoires se passaient aux États-Unis, que tous les personnages étaient américains, et qu'à un moment je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas de super-héros français? Et je n'étais ni dans un milieu et j'avais pas d'interlocuteur où cette question pouvait avoir le moindre écho. Donc, je me souviens, j'ai écrit une lettre à Strange qui n'a pas répondu à cette question. Peu importe, mais rétrospectivement, il me semble que ça va de soi, c'est-à-dire qu'on est censé ne pas poser la question, on est censé ne pas s'étonner. Le super-héros, c'est une création de l'imaginaire américain et ça n'appartient pas aux Européens. Bon. Et finalement, je me le suis tenu pour dire, en gros, sans problème, pendant une vingtaine d'années. Il se trouve qu'au milieu des années 90, je m'intéressais, moi j'étais très docteur critique, je suis encore d'ailleurs de façon assez pénible, et je m'intéressais beaucoup au problème de réception de la science-fiction en France. J'étais toujours stupéfait par la discordance, la distance, le gouffre qu'il y avait entre... un corpus d'œuvres très hétérogène, mais enfin où il y a quand même de très grands textes, de très grandes œuvres, et l'absence totale d'intérêt de la critique française pour la science-fiction en général. C'est même pas une absence totale, c'était parfois un rejet d'une violence inhabituel par rapport aux autres genres. Voilà, on va dire ça comme ça. Et je me suis posé une question de type historique. Je suis historien de formation. Je me suis dit, mais au fond, est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que avant-guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale, je sais qu'il y avait de la science-fiction, je ne savais pas exactement quoi. Est-ce que c'était déjà pareil? Bon. Et donc, je me suis mis à lire énormément ce qu'on appelle la science-fiction française ancienne, disons tout ce qui précède 1950, au point que j'ai fini par en faire une anthologie pour essayer de faire ressortir quelques textes significatifs. Et là, j'ai découvert, alors non seulement ce qu'on savait déjà, les textes étaient nombreux, mais qu'il y avait beaucoup d'excellentes choses, et que dans ce corpus d'œuvres, il y avait des personnages qui étaient en gros l'équivalent français, donc avec des caractéristiques bien particulières, de Doc Savage, de The Shadow, du Gladiator, tout roman et personnages qui ont servi aux auteurs américains des années 30 pour créer les personnages, les premiers personnages de comics, Superman, Batman, etc. Et donc, évidemment, à un moment, je me suis dit, ces personnages, ils ont failli exister, ils ont existé et ils ont été oubliés. Et la césure, c'est la Deuxième Guerre mondiale. De ce point de vue-là, la Deuxième Guerre mondiale représente une sorte de catastrophe culturelle qui a sélectionné de manière extrêmement précise des figures comme Fantomas, Arsène Lupin, Maigret, en disant ceux-là ont le droit de continuer à exister dans l'imaginaire français, et qui, d'un autre côté, a pris le Nick Talop, Arton Ironcastle, enfin, et tous les personnages de la science-fiction de l'entre-deux-guerres, en disant non, ceux-là, on ne s'en souviendra plus. Bon, mais de manière, les livres ne sont plus réédités, on ne les verra plus, etc. Alors, il y a quelques exceptions, mais le phénomène, du point de vue général, est celui-là. Et voilà, à un moment, la question c'était pourquoi il n'y a plus de super-héros en Europe. La réponse c'est parce qu'on les a oubliés. Il s'est passé quelque chose qui fait qu'ils ont disparu de la mémoire collective. Et la bande dessinée, elle prend ce problème comme un problème de scénario de science-fiction. Le monde a été altéré de telle manière que ces personnages disparaissent de notre conscience littéraire et picturale. Voilà.
C'est une structure que j'ai trouvée extrêmement riche, avec justement beaucoup, beaucoup de fonds. Fabrice, toi qui es donc co-scénariste de ça, quelle était la place qu'il te restait par rapport à cette densité qui est quand même quelque chose d'assez fort, quoi. Donc, quelle était la demande peut-être de Serge vis-à-vis de toi, ou est-ce que c'est toi qui allais vers lui?
Moi je suis un petit peu comme toi, c'est-à-dire que quand je vois que je ne suis pas initiateur d'un truc, j'essaye de récupérer, mais j'ai été un cran plus loin, c'est-à-dire que j'ai fait croire à Serge.
T'es plus rapide que moi en fait.
J'ai fait croire à Serge qu'il avait besoin de moi, alors que bon, et que maintenant il pense que c'est lui qui m'a appelé. En vérité, c'est le contraire qui s'est passé. Moi, un point de vue humain, j'étais très content d'accompagner un peu le retour sur scène de Serge Lehmann, qui pour nous, petits auteurs de science-fiction. Né dans les années 70, sur la génération Star Wars, c'était un petit peu une figure emblématique quand on a commencé. À un moment, il est parti, on n'a pas très bien compris ce qui s'est passé. Et là, il est revenu, et là, je me suis dit, toi, tu viens ici tout de suite, quoi. Et il y avait de toute façon, enfin, le sujet, je pense qu'il intéresse normalement à peu près tout créateur qui est fasciné par la culture populaire du XXe siècle. Pourquoi il n'y a pas de super-héros européens? Pourquoi on les a oubliés? Ça m'intéressait de toute façon. Je m'étais déjà posé cette question sans trouver de réponse, sans approfondir véritablement. Par ailleurs, moi, je suis quelqu'un qui est fasciné par la culture anglo-saxonne, ce qui m'est un peu reproché parfois. C'est-à-dire que les romans se passent aux États-Unis ou en Angleterre, je suis un foutu de faire un truc qui se passe en France, et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas, notamment dans toute cette littérature de récupération, de réinvestissement de l'histoire, toutes les choses autour du steampunk, etc. On est nombreux à trouver que souvent l'herbe est plus verte ailleurs, et pourquoi on n'arrive pas à s'approprier ce qui se passe en Europe avant la Seconde Guerre mondiale. Donc, je veux dire, c'est presque un travail de psychanalyse d'auteur en direct que j'ai pu accomplir, puisque finalement, j'ai réfléchi avec Serge à cette question. Alors maintenant, la collaboration, c'est assez simple. Je veux dire, l'idée, la pulsion originelle vient de Serge. Moi, je suis là pour aider à ce que le projet advienne, quoi, et de façon cohérente, et faire le tri entre une matière enfin dans une matière qui est effectivement colossale et qui pourrait donner lieu à des dizaines d'albums. Or là, on en a 6, enfin on a 12 épisodes à notre disposition, donc ça implique des choix drastiques. Voilà, je pense qu'à un moment, Serge s'est senti un peu écrasé par cette profusion de choix, d'informations, de références. Et donc mon rôle, ça a consisté d'abord à l'aider à défricher tout ça et à voir bon, qu'est-ce qu'on va choisir de raconter comme histoire parmi cette myriade d'histoires possibles. On n'est pas complètement guéri de cette obsession-là parce que de toute façon, on a d'autres idées après pour étendre cet univers, raconter d'autres choses. Et je crois que Jess partage aussi cette volonté. Voilà, on a l'impression d'avoir vraiment là exhumé une petite partie de ce qu'on avait raconté. Il y a un matériau qui est très très riche, qui est toute la culture populaire européenne de la première moitié du XXe siècle. Et c'est presque une grande joie et une jubilation de se réapproprier ça et de découvrir tout ce qu'il y a de génial là-dedans. Moi qui, quand j'avais 18 ou 20 ans, enfin de façon très caricaturale, mais là encore une fois, je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas, moi je rejetais la littérature française, par exemple, en me disant, mais oui, mais rien n'est aussi génial que Joyce ou machin, et en France, il n'y a que de la merde, parce qu'on étudiait ça au bac, et ce n'était pas intéressant, et on a 25 ans, on redécouvre, ou on découvre quasiment pour la première fois Flaubert, par exemple, et on se dit... C'est absolument génial. Là, c'est un peu ce qui s'est passé pour moi sur cette bande dessinée. C'est-à-dire, je me dis, mais attends, il n'y a pas que les États-Unis dans la vie. On a un matériau qui est d'une richesse extrême. Et c'est comme s'il attendait d'être exhumé et redécouvert. Et je pense qu'une partie de la joie, du plaisir qu'ont eu les premiers lecteurs à lire cette BD-là, ça participe aussi de ce phénomène-là, de se dire, ah ben ouais, c'est vrai, il y a tout ça et c'est notre patrimoine, quoi.
Je vais en arriver à Jess, bien entendu, dans la foulée. Cet aspect réparateur, moi, je l'ai énormément ressenti à la lecture de la Brigade Chimérique, une espèce de sensation de réparer une vexation. Et je pourrais comparer ça au fait... On voit bien que les tentatives de super-héros français viraient à la caricature quand elles étaient faites de manière brutale, du style un héros avec une cape dans Paris, c'est Super Dupont, et c'est forcément un peu grotesque. Mais j'allais dire, c'est un peu comme si on se mettait... je vais prendre une image qui vaut ce qu'elle vaut. Si on se mettait au karaté et qu'on voulait d'un seul coup casser une brique avec la main, c'est vrai que si on le fait d'un coup, ça marche pas, on se fait très mal. D'ailleurs, d'une certaine manière, pour moi, la Brigade Chimérique, c'est l'étape qui manque, l'apprentissage qui manque pour, à la limite, nous décomplexer vis-à-vis de ça. Parce que quand on parle de personnages comme le passe-muraille, par exemple, que tout le monde connaît, mais qu'à la limite, on n'a jamais eu l'idée d'intégrer aux super-héros. Parce que les super-héros, c'est américain. Mais que finalement, on le met en scène comme vous l'avez fait, je trouve, avec justement beaucoup d'intelligence. On se dit, mais oui, à certains égards, le passe-muraille, c'est un super-héros et il suffisait de pas grand-chose pour aller vers autre chose et avoir d'autres étapes. Et finalement, on aurait pu avoir tout à fait des récits super-héroïques français, contemporains. Et peut-être d'ailleurs que ça sera une étape. Alors, Jess, moi, un des... Bon, je vais vraiment faire l'article de la BD, je suis désolé, je suis très fan. Mais ce que j'ai trouvé super, c'est que justement chaque étape de cette espèce de mix que vous avez voulu faire, je la trouve assez réussie. Et en ça, je trouve que c'est un peu une alchimie qui est très compliquée à obtenir, je le sais, parce que j'essaie constamment de le faire et que j'y arrive pas très souvent. Donc il y a un fond, il y a énormément de richesses de fond. Il y a eu un tri, un œil critique par rapport à ça, qui consistait à dire comment est-ce qu'on met de l'ordre dans tout ça pour que ça fasse quand même un récit et pas juste une anthologie. Et le fait est que c'est un récit. Et je trouve que l'équilibre est très bien trouvé, puisqu'il y a à chaque fois de grandes scènes, pour le coup, qui frappent l'imaginaire. Vous pourrez voir ça, il y en a déjà au moins 3 ou 4, rien que dans les pages qui sont présentées. Des scènes qui marquent, où on se dit, waouh, ouais, il fallait y penser à ça, quoi. Des scènes très très belles, et alors justement très bien mises en scène d'un point de vue graphique. Et j'avais l'impression, Jess, en fait, que tu avais utilisé ce projet comme un en plus, j'allais dire, c'est presque une étape supplémentaire, comme un espace d'expérimentation graphique géant, une espèce d'espace de liberté totale.
Oui, tout à fait. Bah, de toute façon, moi, depuis quelques temps, enfin, depuis que j'ai arrêté Carmen pour justement faire de l'expérimentation graphique. Enfin, j'ai choisi. C'est un métier qui est plein de contraintes. On est seul sur sa table toute sa journée. C'est long, c'est fastidieux. Et la moindre des choses, c'est de se faire plaisir. Et moi, mon plaisir, c'est pas de dessiner, c'est de raconter. c'est de mettre en page, c'est de proposer une subjectivité au lecteur, de les emmener d'une certaine manière dans le récit.
Dans ce sens, ta manière d'aborder la Brigade Chimérique n'est pas la même du tout que sur Carmen McCallum, par exemple.
Non, elle est... oui et non, c'est-à-dire que j'essaye... J'ai une culture, comme tout le monde, de visuel énorme, entre toutes les BD que j'ai lues et les films qu'on peut voir, les séries. Et en fait, Carmen s'était basé sur l'efficacité. Dans la brigade, le grand plaisir que j'ai, c'est qu'il y a des scènes d'action, mais il y a des scènes de comédie, il y a des scènes dramatiques. Il y a vraiment tout un... Je peux explorer vraiment plein de thématiques graphiques et narratives. C'est bien parce que ça permet de sauter d'une scène à l'autre, de justement, moi, d'explorer des choses que j'ai pas eu l'occasion de faire auparavant.
Avec des, enfin, je parlais d'expérimentations qui peuvent aller jusqu'à des collages, en fait, l'utilisation de collages à l'intérieur de la bande dessinée ou de changements de style graphique, ce qui à la limite est un peu plus commun. Mais je pense en particulier à la séquence avec les surréalistes, que je trouve très réussie. J'ai l'impression que tu as justement utilisé ces collages, qui plus est d'une manière quasi narrative.
Enfin, ah bah oui, tout ce que je fais dans la brigade est narratif. C'est-à-dire que tout dessin apporte, consciemment ou inconsciemment, enfin doit apporter au lecteur, consciemment ou inconsciemment, des informations émotionnelles ou informationnelles sur l'atmosphère de l'époque, le drame qui se joue, les sentiments des personnages. Ce qui était intéressant, tu parles d'une séquence qui, si elle avait été traitée normalement, je dirais, aurait été passablement banale. C'est-à-dire que c'est des personnages qui se rencontrent dans un lieu d'exposition. Alors bon, ce qui était intéressant, c'est que c'était les surréalistes, et que c'est un mouvement qui était proche des feuilletonistes et des gens qui faisaient de la science-fiction à l'époque. C'est aussi des artistes qui travaillaient sur l'expression de l'émotion au travers de l'art et de ce qu'on pouvait ressentir. J'ai utilisé, moi, les œuvres des surréalistes en rapport avec les dialogues que pouvaient avoir les personnages. Donc André Breton et Georges Spath pour les citer, et un poète qui vient d'Amérique du Sud, un peu fantasque. Et j'essayais, en fait, c'était le regard extérieur du narrateur qui apportait des informations supplémentaires, émotionnelles, enfin, sur les émotions des personnages et sur leur état d'esprit par rapport à la conversation qu'ils pouvaient avoir et leurs ressentis, quoi.
Cet exemple, par exemple, de la séquence avec les surréalistes, typiquement, c'était un de ces moments où j'avais cette dualité schizophrène à me dire d'abord, ah ouais, ils font leur malin ici de Breton et tout, puis juste après de me dire, mais oui, mais c'est pertinent. Alors du coup, ça fout vachement les boules parce que je peux même plus les attaquer. Après, je me dis, bah oui, effectivement, il y a des liens logiques entre les surréalistes et les feuilletonistes. Et du coup, on se laisse emporter par ça, quoi. On peut peut-être en profiter pour citer le très très beau travail de la coloriste. Donc c'est Céline Bessonneau, c'est ça?
Oui.
Parce que, alors tu peux nous expliquer peut-être comment tu travailles avec elle, mais je sais qu'en tout cas, là, en tant que lecteur, je suis très impressionné par le résultat. Dans le troisième album, il y a des séquences avec, alors quel est le nom de la créature? C'est Xenobie, c'est ça?
La Xenobie, oui.
Des tonalités de pourpre ou de violet qui sont incroyables. C'est des séquences de toute beauté. Est-ce que tu lui donnes des indications? Est-ce que c'est quelque chose qu'elle fait de complètement toute seule?
Ah oui, je lui donne aucune indication. En fait, moi j'avais l'habitude de travailler en donnant beaucoup d'indications quand je travaillais avec Isabelle Rabarro, qui réclamait des informations Je me suis dit que non, qu'on était, on avait chacun nos responsabilités et que en fait, elle faisait les couleurs, donc c'était mieux qu'elle travaille par rapport à ses impressions à elle. J'avais envie qu'elle ressente comme moi, qu'elle ait la liberté comme moi. Donc elle était d'accord, ça l'intéressait aussi. En fait, je lui envoie les pages en noir et blanc et le script de Serge et de Fabrice. Et elle fait par rapport à ça. Alors quand il y a des choses qui sont très précises, je lui en fais part, si tu veux. Mais la plupart du temps, je la laisse libre de gérer ça à sa manière.
Et puis bon, ça marche très bien.
Ah oui, 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 je suis très content de son travail. Je suis vraiment fier de ce qu'elle fait.
Alors je me permets du coup, puisque j'ai le micro, je peux poser les questions que je veux en tant que fan. Il y a deux, trois questions alors, que vous jugerez soit côté le gamin émerveillé, soit côté docteur critique. Mais c'est une sorte donc d'uchronie super-héroïque qui se passe dans une Europe de l'entre-deux-guerres. Une des choses qui m'a frappé, sauf erreur de ma part, c'est qu'il n'est jamais question réellement des grandes figures politiques de cette époque. À un moment donné où, par exemple, un personnage voit une svastika, il dit « Ah, c'est le sigle du docteur Mabuse ». Il cite jamais Hitler. Il n'est jamais question de Churchill. Bon, par contre, il est question parfois de personnages contemporains comme les Curie, comme Breton, etc. Alors, comment vous avez pensé ce choix et qu'est-ce qu'il a justifié pour vous ?
Ça, c'est un aspect essentiel du travail parce que la crédibilité de la série comme série de super-héros dépendait en partie des choix qu'on a fait à ce moment-là. Moi, il m'a paru assez évident, et j'en ai parlé d'ailleurs dans un texte que j'ai mis sur le site qui va avec, où il y a beaucoup de références qui sont expliquées, où on raconte un peu comment on a fait les choix qu'on a fait, que le phénomène des super-héros ressemble beaucoup au mythe aristocratique fondateur européen. Autrement dit, pour être tout à fait clair et explicite, les super-héros américains protègent des villes et pas des États. Et on a fait ce choix très tôt dans la brigade, quand on a fait le découpage et le synopsis général, on s'est demandé si on impliquait les États, et on a finalement choisi de ne parler des États que sous forme de villes. C'est un usage qu'on conserve encore aujourd'hui, très souvent pour dire la France et l'Allemagne ont passé un accord, on dit Paris et Berlin ont passé un accord. Donc une capitale représente une ville, un État, c'est sa fonction. Mais il nous a paru que la fonction principale des super-héros, mais dans tous leurs attributs, c'est-à-dire y compris le fait d'habiter une forteresse, bon, cette étroitesse géographique était étroitement liée au fait qu'ils sont les protecteurs de villes et non pas d'États. Alors, il est pratiquement impossible moi, au départ, je m'étais dit, est-ce qu'on va pouvoir tenir le truc, c'est-à-dire, est-ce qu'on va pouvoir créer un monde dans lequel on ne fait jamais référence à la France, à l'Allemagne? Et en fait, comme les enjeux de politique et de géopolitique sont quand même traités, puisque ce n'est pas que la fin des super-héros, c'est aussi la fin d'un certain idéal européen, d'un certain espoir européen ou d'une joie de vivre éventuellement en Europe, il était impossible de supprimer toute référence à l'arrière-plan géopolitique. Donc au fond, les États existent toujours, on le sent, et même à partir du tome 4, on en parle plus franchement et on voit apparaître quelques figures de politique connues comme Daladier, par exemple. Mais pour l'essentiel, le phénomène des super-héros nous a paru être vraiment assis sur la réalité des villes comme le lieu d'exercice du pouvoir, voilà, et du super-pouvoir en l'occurrence. D'autre part, je te corrige juste, c'est pas vraiment une uchronie. C'est dans la mesure où on n'a pas imaginé une issue différente à la guerre de 14. On a simplement créé un passé enrichi. C'est un peu difficile à nuancer, mais l'histoire n'est pas réécrite. C'est la même histoire transposée dans le monde des super-héros. Les forces et les combats sont les mêmes.
Inversement, là, on parle des personnages historiques que vous avez choisi de passer sous silence. Est-ce que vous avez, étant donné que visiblement il y a une très grande richesse de personnages fictifs dans lesquels vous pouviez taper, est-ce que pour autant vous avez inventé des personnages de super-héros de l'époque que vous avez glissés parmi les autres ?
On a inventé pour l'essentiel c'est-à-dire que tout à l'heure on a dit culture populaire, effectivement on a beaucoup puisé dans le fond des feuilletonistes des années 20-30, mais pas que, on a aussi utilisé Kafka, on a aussi utilisé Papini, on a aussi utilisé Zamiatine, donc on est quand même dans l'imaginaire de la science-fiction et du fantastique au sens le plus large, populaire ou très littéraire, en fait on a traité tout sur un pied d'égalité.
Ce qui est amusant, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui... évidemment, on va identifier le passe-muraille comme un héros imaginaire, mais il y en a d'autres. Les gens sont vraiment persuadés qu'ils ont été inventés parce qu'ils sont... Ils ont été vraiment totalement oubliés. Il n'y a que Serge qui les connaissait, quoi.
On est une dizaine, mais ce n'est pas beaucoup. Mais pour répondre à ta question, on a inventé, outre le personnage de l'homme chimérique, enfin du héros de l'histoire, Jean Sévrac, on l'a semi-inventé, disons qu'on l'a extrapolé à partir d'un roman d'une femme surréaliste de l'époque, d'un roman de Ronny Aîné, on a fait un peu un mélange des deux. Le seul vrai personnage qu'on a inventé, c'est le super-héros espagnol qui s'appelle La Phalange. Et parce qu'on avait, besoin de représenter le système d'alliance du docteur Mabuse, donc en Italie et en Espagne, et que l'Espagne n'a pas produit à cette époque une grande figure qui puisse être utilisée.
Il n'y a pas eu de production de science-fiction, appelons ça
non.
Comme ça.
Pour l'essentiel, c'était quand même la SF européenne qui était, enfin, jusqu'à la fin des années 30, elle tient encore la route par rapport à la SF américaine. Elle se concentre dans les pays du Nord, disons, c'est Angleterre, France, Allemagne. Russie, un peu Europe centrale, mais les pays du Sud, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, on trouve beaucoup moins de choses.
Une des questions que je me posais aussi à la lecture d'une scène du troisième album, mais qui faisait écho à d'autres passages du début de la série, c'est quand à un moment, une figure super-héroïque qui en fait est un ange, est analysée en laboratoire, dans le laboratoire Curie, on lui prend une plume pour l'analyser. Cette scène-là est quand même assez frappante parce que c'est comme deux univers mentaux qui se percutent, l'univers religieux et l'univers scientifique. De même que, un peu plus tôt dans l'histoire, il est question de la Vierge qui apparaît sur les champs de bataille et qu'on met finalement dans votre champ littéraire au même plan que telle créature bizarre qui va apparaître comme un super-héros. Donc c'est comme si on mettait la Vierge possiblement dans les super-héros européens, éventuellement à un moment donné de l'histoire. Est-ce que, alors je ne dis pas qu'il y a un lien direct, est-ce que justement il y a une spécificité des super-héros européens tels que vous l'envisagez maintenant qui les différencierait complètement des super-héros tels qu'ils ont été traités du côté américain? Est-ce qu'il y a une continuité telle qu'en tout cas vous les imaginez, puisqu'ils ont disparu au final, mais telle que vous les imaginez ou que vous les fantasmez? Est-ce qu'il y a une continuité plus forte vis-à-vis d'un paysage qui vient de très loin, qui a été, avec une histoire très forte, par rapport au paysage américain qui est supposément, qui est censé avoir moins de racines par rapport au passé? Est-ce que ça a fait une différence à vos yeux?
Oui, il me semble que la grande caractéristique de cet univers-là, de l'autre côté de l'Atlantique, sa grande différence par rapport au monde européen, c'est qu'il prend très très tôt conscience de sa propre identité. C'est-à-dire qu'à partir des années 40, la firme DC développe autour de Superman un certain nombre de personnages, et ces personnages commencent à interagir assez vite entre eux. Moi, d'une manière plus générale, mon intuition sur le monde des super-héros, c'est qu'il est proprement mythologique, mais réellement. C'est pas juste une figure de rhétorique que de dire... Ces personnages prolongent les grands héros mythologiques, les demi-dieux grecs, etc. Quand on regarde l'histoire des super-héros des 30-40 dernières années, on s'aperçoit que la prise en main éditoriale, le fait qu'il y ait des esprits qui soient quasiment dans la position d'Homère, en disant, ça fait trop d'épisodes, on ne comprend plus qui est qui, il nous faut une catastrophe générale qui redistribue les cartes. Tout l'univers est traité d'un seul tenant à chaque fois, on est dans une sorte d'Olympe, quoi. Ils l'ont traité comme ça, et le cadre est assez contraignant. Et bon, la grande différence, c'est que le monde, les figures européennes des super-héros existaient, mais jamais elles ont tellement interagi entre elles. Et je pense que ce qu'on amène nous, ce qui fait qu'on les perçoit comme des super-héros, c'est qu'on les a traités comme un Olympe européen, comme un univers homogène. Voilà. C'est pas tellement qu'on les a embellis ou qu'on a augmenté leur pouvoir. Dans la plupart des cas, on s'est contenté de les reprendre tels quels. Mais on en a fait un univers homogène. Et je pense que la signature du monde des super-héros, en soi, c'est culturellement, je trouve, assez intéressant. C'est le fait qu'il est un monde. C'est pas une collection de personnages qui vivent des histoires séparées. Il est un monde qui interagit.
On devrait être sponsorisé par la communauté européenne, en fait, un peu pour cet album. Parce que c'est vrai qu'il y a ce côté-là de prendre des éléments disparates et d'en faire un tout, alors que les États-Unis, peuple quasiment sans histoire, sans mythologie, c'est, semble-t-il, construit une mythologie ex nihilo de façon très très rapide, quoi. Et du coup, très frappante. Enfin, les archétypes, les super-héros, si on les prend comme membres, enfin éléments d'une mythologie, on surgit très rapidement. On a pas mal parlé du rôle, notamment des immigrants juifs dans la création d'un certain nombre de super-héros et aussi de façon générale dans la création d'Hollywood. Moi, je trouve que c'est une histoire qui est très frappante. Les fondateurs des studios hollywoodiens sont pour la plupart des petits juifs émigrants d'Europe de l'Est. Il y a eu la volonté très rapide de recréer quelque chose. En Europe, il n'y a pas ce besoin-là. Tout a toujours été là. Il y a une histoire très riche, profonde, que les Américains, quand on discute avec eux, nous envient d'une certaine façon. Mais pour pallier ce déficit-là, ils ont fait les choses eux-mêmes plus rapidement. Et du coup, ils arrivent à un système qui est cohérent chez eux, parce qu'il a été créé sur les 50, 60, 80 dernières années, alors que nous, c'est juste un vaste foutoir, quoi.
Il y a je ne sais plus quel historien avait fait remarquer que le processus de construction de la mythologie grecque, qui commence avec Homère, s'était étalé sur plusieurs siècles, et même peut-être plusieurs dizaines de siècles. En gros, disons, il y a la guerre de Troie qui doit se produire vers moins 1200, et puis il y a la transcription, il y a donc le début de la constitution des Aèdes qui chantent la guerre de Troie, il y a la constitution par Homère du corpus écrit de la guerre de Troie vers moins 800, et puis il y a la divulgation de ce corpus dans la cité grecque, sa traduction dans d'autres langues. Enfin bon, on assiste à un processus qui prend 1000 ans. Et rapporté à l'histoire des États-Unis, ça ne prend que quelques dizaines d'années, voire même c'est instantané, puisque des personnages qui sont l'Ulysse américain, comme Davy Crockett, par exemple, explorateur des forêts, allant dans les tribus et emmenant sa culture avec lui, il avait pas besoin de raconter son histoire. Il avait avec lui le reporter qui écrivait au fur et à mesure la légende que les gens liraient 10 jours plus tard dans les magazines de la côte Est. Donc un processus qui, en Europe, a pris 1000 ans ou plus, aux États-Unis, il s'est développé en quelques dizaines d'années.
Cette rapidité, elle me fait penser à une chose que Jess me disait, à savoir qu'il avait l'impression que, par exemple, le 11 septembre avait été immédiatement assimilé aussi par cette mythologie de super-héros à certains égards, qui avait eu un impact sur les super-héros américains, un post-11 septembre. Oui.
C'est ce que j'ai perçu, moi, dans... Alors, je lis plus de comics depuis certaines dizaines d'années, mais je continue à regarder régulièrement ce qui sort. Et alors, moi, j'associe ça au 11 septembre parce que c'est... avant le 11 septembre, jamais l'Amérique n'avait été attaquée sur son territoire. Et ils étaient se considéraient comme de toute façon les protecteurs du monde. Enfin, l'ensemble du monde, grosso modo, les considère comme ça. Et le 11 septembre a été un déclencheur, je pense, inconscient chez eux de leur fragilité possible. Et ça a eu une répercussion dans le monde des super-héros, c'est-à-dire qu'on a vu apparaître des super-héros morts-vivants. Je relis les deux.
Enfin, les Marvel Zombies, je crois, c'était ça la
nouvelle
série.
Je sais pas, parce que je lis pas. Je vois juste qu'il y a le Captain Marvel en zombie qui attaque Batman, qui est zombifié aussi. Enfin,
pour le bouffer, quand même, effectivement.
Et c'est l'antithèse du super-héros, quoi. Donc, enfin, je place ça comme ça. Je pense qu'il y a quelque chose là-dessous qui est vrai.
C'est une des dernières thématiques que je voulais aborder parce qu'elle m'est vraiment, elle m'est chère. Ça fait partie des choses sur lesquelles je réfléchis énormément quand j'écris. C'est cette thématique du surhomme, précisément. Alors, ça a été un de mes chocs pour rentrer dans la BD, c'est que dans le premier album, il y a une longue citation dont on ne sait pas au départ d'où elle provient. Et puis on se rend compte qu'elle est de Nietzsche et qu'en fait ils ont habilement remplacé le terme surhomme par super-héros, je crois, hein, en tout cas.
On va pas remplacer, ça dépend des traductions. Il y a une traduction qui exploite celle qu'on a citée, où surhomme n'est pas dit mais super-héros.
Super-héros, d'accord. Donc en fait là c'était quand même un choc, quoi, d'avoir Nietzsche qui parle des super-héros. Forcément ça met dans le bain assez vite. Et la thématique est prolongée rapidement par la suite, puisqu'il y a une grande scène où le docteur Mabuse convoque le banc. Je crois que c'est l'expression exacte que tu évoquais, Serge. Faisant venir ainsi les différents partis en présence de cette espèce de grand conflit qui est déjà en cours, et leur dit finalement la seule question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'un homme ? J'ai l'impression qu'en fait une bonne partie de votre BD tourne autour de cette question, qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce que c'est qu'un surhomme, justement ?
Oui, le pitch narratif de la bande dessinée, c'est pourquoi n'y a-t-il plus de super-héros en Europe ? Pourquoi ils ne sont, enfin, où sont-ils passés ? Il y a la question culturelle qui est posée en subtexte, en filigrane, c'est au fond, est-ce qu'une civilisation, comme la civilisation européenne, à défaut d'être une culture politique, on est une civilisation, peut être heureuse ? C'est peut-être pas le terme adéquat, mais j'en vois pas de meilleur. Sans produire des images du surhomme. Voilà. C'est une question qui peut paraître étrange, mais je pense qu'elle est, à sa manière, assez tortueuse. Elle touche quelque chose dans le processus de définition d'une civilisation. Il y a des désaccords politiques sur la question, mais beaucoup de gens pensent qu'il serait temps que l'Europe cesse d'être une civilisation simplement, quoi, un ensemble de cultures agrégées pour devenir une entité politique. Je ne suis pas sûr que ça puisse se produire tant qu'on ne s'est pas enregistré nous-mêmes comme civilisation. Voilà. Or, je pense que les super-héros participent du processus de définition et de prise de conscience de « tiens, j'appartiens à ça ». On a eu des réactions très frappantes dans la brigade. À un moment, on représente un personnage... le héros qui s'enveloppe dans un drapeau français, c'est un soldat de la guerre de 14 et comme il a raté sa guerre, il estime que ce qui lui arrive est une chance de reprendre le flambeau et d'accomplir son devoir. Et j'ai vu sur un forum de la Marvel un personnage dire « j'ai eu des frissons comme j'imagine les Américains en ont devant leur capitaine America ». Voilà. Et d'une certaine manière, le but, il n'était évidemment pas du tout de susciter du patriotisme à dessous ou quoi que ce soit. Il était de montrer que c'est très difficile de ressentir un certain nombre d'émotions du type appartenance ou se sentir fondé à habiter quelque part, se sentir heureux d'être quelque part, né ici, être de cette culture-là, sans avoir en face de soi des images qui représentent ça. Voilà. Et je pense que le surhomme participe de cette définition. J'ajoute une chose. Il est évident, mais ça je pense que chacun l'aura compris, soit avec cette conversation ou en lisant les livres, que Nietzsche ayant été le philosophe préféré des nazis, au grand dam de tous les philosophes qui ont lu Nietzsche, ce qui est un pur scandale intellectuel, il est évident qu'après le nazisme, le surhomme en Europe n'existe plus. Il n'est plus licite comme objet de pensée. Il a été désintégré de la culture contemporaine européenne. Et c'est évidemment ce processus-là qu'on raconte, sans entrer dans les détails.
C'est justement la question qui m'a le plus interpellé en tant qu'auteur. C'est que j'ai tendance à parcourir le chemin inverse. Alors forcément, ça m'a pris à rebrousse-poil, à savoir que j'avais tendance à me dire, est-ce qu'on n'a pas besoin actuellement de se passer de l'image du surhomme ? Est-ce qu'on n'est pas arrivé à un niveau de maturité qui nous permettrait de dire simplement, soyons humains ? Alors même que, d'ailleurs, je pense que vous en parlerez avec un philosophe qui a écrit « Demain, les post-humains », on est en train d'aller vers une direction qui est justement plutôt post-humaine dans un sens technologique. Et à certains égards, je me demandais si ma micro-responsabilité d'auteur n'était pas justement d'essayer de nous purger, entre guillemets, de cette image du surhomme et d'essayer de dire « non, mais soyons humains, soyons... » Il y a un des personnages que je n'ai pas encore vu dans la BD, mais qui est évoqué, je crois, sur les pages de Garde, qui est « L'homme sans pouvoir » ou quelque chose comme ça dans votre BD. Bon, c'est un peu ce vers quoi j'essaye d'aller, une espèce de héros sans pouvoir. Or, je réalise quand même, à la lecture de vos albums, que j'ai ce frisson que vous évoquez en me disant « Hey, c'est quand même vachement bien ces personnages avec des tas de pouvoirs !» Donc ça satisfait quelque chose. Et je me demande si je fais... Alors là, c'est une vraie grosse question que je suis en train de me poser depuis quelques semaines. Je me demande si je fais pas quand même... S'il n'y a pas une erreur intellectuelle de ma part, ou en tout cas c'est un vrai questionnement, à savoir est-ce qu'il vaut mieux pas quand même qu'il y ait des manifestations super-héroïques d'une manière ou d'une autre. Alors certes, avec quand même un certain nombre de précautions. Mais qui permettent d'avoir un effet de catharsis, de dire qu'au moins on le vit par procuration. Et le risque d'essayer d'éviter ça, c'est peut-être justement qu'on a envie de le vivre autrement. D'avoir une frustration, en fait, à la lecture de quelque chose qui serait finalement peut-être un peu en deçà de ce qu'on attend des personnages héroïques.
Pour répondre à la première partie de ta question, est-ce qu'on ne devrait pas aller vers des héros sans pouvoir ? La réponse est, ça fait 60 ans qu'on le fait. Ça fait 60 ans qu'il n'y a plus de super-héros en Europe. Donc, on a eu le temps de mesurer quelle liberté ou quel dégagement des anciennes représentations ça représente, et aussi quelle perte ça représente. Les deux, c'est une médaille à deux faces. Moi, je pense qu'on peut... Encore une fois, la brigade, notre idée, c'est d'agir comme un catharsis, c'est-à-dire de révéler un manque que tout le monde ressent. Alors, puis on y accorde plus ou moins d'importance. Voilà, nous, ça nous plaît, ça nous intéresse, mais c'est un endroit où les choses se voient. Voilà, ça rend les choses visibles. Ce qui nous intéresse, c'est de retourner sur de revenir et de rendre visible ce qui a été manifestement un épisode traumatique de la culture européenne. Tout le monde sait qu'il a été traumatique, mais il semble avoir été traumatique, y compris à des endroits qu'on ne soupçonnait pas. Voilà. Et donc, on dégage une couche supplémentaire du problème, en espérant que le simple fait de la dégager libérera de la créativité, de l'énergie et du débat. Mais après, la question des héros sans pouvoir, c'est très intéressant. Moi, je suis pas loin de penser que ce qu'on évacue d'une main, on le remet de l'autre sans s'en rendre compte. C'est-à-dire, par exemple, je suis fasciné par le nombre de héros contemporains qui sont affectés d'une maladie mentale ou d'une disgrâce physique ou d'un tic. Ce sont des manières de se singulariser. Et naturellement, ces attributs narratifs sont utilisés dans les histoires pour résoudre les crises. Ce ne sont jamais que des gadgets. C'est une sorte de mini super pouvoir. Moi, je ne suis pas sûr que le vrai héros. Enfin, comment dire, on parle de ce type d'histoire. Toutes les histoires ne réclament pas ce type de personnage. Mais dans ces histoires, les héros ont toujours, d'une manière ou d'une autre, un super pouvoir. Ce qui est intéressant, c'est. Je ne suis pas sûr qu'il faille l'évacuer, c'est plutôt prendre conscience de la nécessité qu'ils en aient un.
Comme on arrive vers la fin, quand même, du débat, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions ? Est-ce qu'il y a un micro qui circule ? Oui, il y en a un. Vous êtes scotché par la qualité de leur travail. Est-ce que je peux comprendre ? Les images sont en train de défiler derrière nous.
Bonsoir, je voulais savoir comment est-ce que vous avez débattu de réutiliser l'héritage graphique et visuel des personnages que vous utilisez pour ceux qui avaient une identité visuelle, ou est-ce que vous avez décidé de repartir de zéro, ou est-ce que vous vous êtes posé la question de repartir ou d'utiliser les images préexistantes des personnages comme Mabuse, on le connaît, on l'a vu dans les films. Est-ce que vous êtes posé des questions ? Est-ce qu'on redessine l'acteur ou est-ce qu'on recommence de zéro ?
Alors, Mabuse, j'ai vraiment utilisé le Mabuse de Fritz Lang sciemment, parce que c'est tellement fort que... C'est une manière de rendre hommage au travail de Fritz Lang et puis à la folie de ce personnage, et qu'il était tellement emblématique qu'on ne pouvait pas celui-là n'était pas oublié, donc il est tellement puissant que, enfin bon, bref. Sinon, pour les autres personnages, non, j'ai vraiment repris ça à ma sauce. Déjà, moi, j'ai découvert, grâce à Serge, cette littérature. J'en connaissais quelques-uns, mais j'ai pas pris Bourville pour le Passe-Muraille, par exemple. J'ai plus pensé à Fred Astaire ou à Cassel, à quelqu'un de cet acabit, et puis essayer de coller au pouvoir et à la représentation aussi. De l'époque, c'est-à-dire que le Nyctalope, je l'ai fait vraiment le français le français d'Aladier de l'époque, quoi.
Nous, il nous a vraiment scotché, hein, je crois. Le Nyctalope, c'est celui pratiquement qu'on a pris le plus de plaisir à découvrir graphiquement, quoi, parce que c'est vraiment l'espèce de...
En fait, Jess a été très autonome du point de vue de la... Il a pris, et on lui... Enfin, comment dire, c'était d'accord entre nous, on était tous d'accord pour se faire plaisir. Donc, il a accordé totale liberté à sa coloriste, et lui a eu totale liberté pour interpréter les scripts qu'on lui envoyait, donc voilà. Moi, spontanément, je m'étais dit, le Nyctalope protecteur de Paris, quand j'ai commencé à écrire l'histoire, je me suis dit, bon, il faut qu'il assume son statut de super-héros, c'est une grande baraque avec des épaules comme ça, les lunettes bleues, l'habit noir, bon. Et il en a fait une sorte de grand-père de la Troisième République qui veut toujours dîner à l'heure. Bon, et je trouve ça... voilà. En fait, le personnage est mille fois plus convaincant parce qu'au fond, je l'ai abordé de manière assez stéréotypée. Et lui, il a senti justement que c'était intéressant de montrer un vieil homme usé parce qu'il représente la situation du thème à cette époque. Et il n'était pas du tout question de discuter cette liberté-là. Au contraire, c'est, à mon avis, c'est vivant et ça marche parce qu'il a senti d'instinct ce qu'il fallait faire.
D'ailleurs, il y avait de l'iconographie de ces personnages, à part Mabuse, effectivement, mais est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des illustrations?
Le Nyctalope, pour ne prendre que lui, a été le héros d'une série de, je sais pas, au moins 17 romans, je crois, qui paraissaient en feuilleton dans Le Matin, pendant toute l'entre-deux-guerres. Le personnage était très très connu, il avait des centaines de milliers de lecteurs, et les feuilletons ont été ensuite repris en volume, et donc il y a des couvertures d'artistes de l'époque, il y en a deux ou trois qui le représentent, mais... parce que justement, cet univers n'avait pas établi ses codes graphiques comme le monde des super-héros américains l'a fait très vite. C'est très hétérogène, c'est-à-dire que suivant l'illustrateur, chacun le représentait de manière un peu différente. On a rarement une image unique du personnage.
Ils avaient pas ce recul en fait sur le personnage finalement qu'on a maintenant. Il nous apparaît évident que voilà, c'est effectivement un grand-père de la Troisième République, mais il faut laisser passer 50 ans pour comprendre ça, quoi.
D'autres questions? Vous pouvez lever le bras pour... voilà.
Merci. Bonsoir. Après le préambule, c'est marqué un épisode sur 10, apparemment. Donc, il y a 6 tomes. Et je voulais savoir, puisque vous disiez qu'il y avait, vous aviez trouvé pas mal de matière, je voulais savoir s'il n'y aura que 6 épisodes, ou après, enfin, 6 tomes, et après, vous continuez.
On ne sait pas. On ne sait pas, Fabrice l'a dit, on a tous pris beaucoup de plaisir et le plaisir n'a fait que croître au fur et à mesure qu'on inventait cette histoire. Il y a de quoi écrire des dizaines d'histoires et pas seulement en bande dessinée, on pourrait très bien imaginer des romans, des recueils de nouvelles, on pourrait imaginer réexplorer cet univers avec la distance qu'on a sur lui. Nous, on a vraiment l'impression d'avoir trouvé un filon qui était là, que tout le monde voyait, mais que personne n'avait pensé à exploiter. Donc c'est une situation absolument jouissive pour des créateurs, mais ça va dépendre du succès de la série, pour être clair. Voilà. C'est-à-dire que si elle marche, sans doute on continuera.
Passer 100 000, on trouve toujours une suite. Hein, ça.
Oui, à 100 000, oui. Mais... Non, mais c'est vraiment aussi basique que ça. Nous, on est d'accord, on a vu qu'il y a de la matière de... Vraiment, on peut exploiter cet univers pendant 10 ans et le révéler, l'embellir et le...
Et de façon assez naturelle en plus.
Oui, enfin, sans forcer, le réinsérer dans la culture. Arrêtez
d'être humiliant quand même. Parce que... Et en plus, c'est facile pour nous.
il faut qu'il y ait un public. Voilà.
On a révélé des... Enfin, révélé, c'est un grand mot, mais... C'est une métaphore qu'utilisait Serge tout à l'heure quand on parlait à des jeunes lecteurs. C'est ce que racontait Stephen King, qui compare le fait de trouver une idée au fait de buter sur un fossile, et parfois il peut y avoir un squelette entier, quoi, de dinosaure, et voilà. Et donc on en a pour des années. Là, on a cette intuition là, quoi. C'est-à-dire que il n'est pas difficile d'imaginer ce qu'on pourrait faire de façon parallèle ou antérieure, voilà. Il y a une frustration de toute façon. Pour nous, créateurs, sur ces albums-là, c'est déjà fini, quoi. Voilà, on se dit.
Avec quand même, je trouve un aspect positif pour le lecteur, c'est qu'on sent cette richesse d'univers derrière. Il y a par exemple des situations où Mabuse explique qu'il y a eu une grande attaque incroyable sur telle ville. On voit un dessin avec un robot géant qui a un design particulier. Et on se dit, ah merde, genre qui s'appelle Spartak ou Spartacus ou un truc comme ça. Et on se dit, donc il y a ça aussi, quoi. J'allais dire, ça me faisait penser au premier film de la Guerre des Étoiles, quand ils étaient bien, où on sentait qu'il y avait plein de choses qui nous échappaient. Il y avait des gens masqués, on ne savait pas d'où ils venaient, des extraterrestres bizarres. Je trouve ce foisonnement dans vos premiers albums, pour le coup, assez excitant. Donc voilà.
C'est-à-dire qu'il y a la grande caractéristique de cette série, c'est l'épisode de fin. Parce que nous, on était persuadés intuitivement que la catharsis ne pouvait prendre que en racontant le plus douloureux d'abord. Pour dire aux gens de façon convaincante ça a existé, vous le saviez mais vous l'avez oublié, il faut montrer pourquoi ça a été oublié, parce que ça a été horrible. Voilà, bon. Si on avait fait une série en 6 volumes sur le retour des mutants du radium de la guerre de 14, ça aurait certainement été plaisant, mais le thème aurait été infiniment moins fort. On commence par la fin, donc c'est la fin qui nous permet ensuite d'envisager un flashback et un retour en arrière qui peut prendre effectivement des années.
Un détail pour répondre à la question qui venait d'être posée aussi, pour ceux qui ne connaissent pas la série. Donc il y a bien 10 épisodes, mais dans chaque album, il y a souvent 2 épisodes. Hein. C'est pas 10 albums qui se suivent, donc c'est bien les 10 épisodes en 10 épisodes en 6 albums. Ce qui permet, au demeurant, d'avoir une sensation assez satisfaisante aussi d'avoir plein d'albums dans c'est comme une pochette surprise, et des couvertures différentes à chaque fois rajoutées par Jess. qui donne une impression de foisonnement qui plus est comme c'est très riche. Bon, je vous cache pas que c'est le genre de BD qu'il faut lire deux fois pour vraiment, je trouve, saisir toutes les subtilités. C'est-à-dire qu'on lit une première fois en disant « Ah ben merde, c'est quand même assez fort ». Parce que pour revenir très vite avant la fin, il y a quand même deux, trois scènes moi, qui m'ont marqué, comme un homme géant qui se transforme en nuage, qui est quand même une scène fantastique. Un crapaud géant qui semble copuler avec la tour Eiffel, qui est quand même une scène assez, assez incroyable. Et en plus, paradoxalement, qui est assez mouvante, pas comme je la présente, mais telle qu'elle est mise en scène, elle est fantastique. Il y a plein de moments comme ça qui sont des pépites, qui donnent l'impression à chaque fois d'en avoir pour son argent. En fait. Et là encore, mon côté docteur critique, malheureusement, a tendance à penser qu'une bonne partie de la production BD, et je m'inclus dans cette majorité, hein, ne fournit pas toujours cette densité au lecteur, et que des fois on a l'impression que ben, on aimerait en avoir un peu plus quoi. Là un album, bon, on aimerait bien connaître la suite, mais il y en a quand même, il y a pas mal de choses hein.
Peut-être pour terminer, il faut préciser que les 6 albums, donc il y a 10 épisodes plus prologue et épilogue, donc ça fait bien 2 épisodes par album, sortent sur l'ensemble d'une année. Donc là les 3 premiers sont sortis, et puis ensuite ça va être mars, juin, septembre, quelque chose comme ça je crois.
Quand même un gros boulot de dessin.
Si on s'y est pris longtemps à l'avance, ça fait 3 ans qu'on travaille dessus.
Ah, c'est ça, en fait, vous avez des trucs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, peut-être une ou deux dernières questions.
Déjà, bravo pour votre série. Moi, j'ai pris une vraie claque. Et je voulais savoir si vous pensiez avoir ouvert une brèche, que maintenant, ça va peut-être décomplexer les auteurs français ou européens sur justement les super-héros, et que ça va lancer un courant, un nouveau courant quoi.
Alors, très bonne question, parce que pour être tout à fait honnête, moi j'ai fait cette bande avec cet espoir là. Je reviens très brièvement sur les problèmes de transposition que Fabien a évoqué au début de l'entretien. Quand on essaye de plaquer mécaniquement ce qu'en sont les super-héros américains sur la réalité française et européenne, ça ne fonctionne pas, ça coince, parce que c'est pas le même monde. Voilà. Je ne prends qu'un seul exemple. Les super-héros américains sont aériens. Ils sont du ciel. Ils habitent au sommet des gratte-ciel, et cet imaginaire-là, il est celui de la ville debout dont parle Céline quand il va à New York. C'est la ville qui tutoie les étoiles, le monde des dieux. Bon. Les super-héros parisiens, ils sont souterrains. C'est pas du tout pareil. Le fantôme de l'opéra, il a son lac souterrain. Bon, voilà. Fantomas, il kidnappe un métro. On est dans l'univers du Ctonien, et donc il est beaucoup plus sombre et inquiétant. Mais c'est un univers de super-héros. Il suffit simplement, au lieu de regarder désespérément vers le ciel, de soulever une plaque d'égout, et d'un seul coup, c'est ce monde-là qui se révèle. Donc je pense que, moi, ce que j'espère, c'est qu'en remettant à jour les personnages, on rétablisse dans leur légitimité culturelle des codes qui ont existé, qui ont été oubliés, et que les gens regardent simplement au bon endroit. Si dans 10 ans, il y a des tas de BD de super-héros français que tout le monde trouve parfaitement naturel, je serais absolument ravi. Ça voudra effectivement dire qu'on a retrouvé un vieux fil qu'on a remis dans la prise. Quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Une toute dernière question ou... Non. Bah, je vous remercie de... Ah, si, quand même, tout dernier moment.
Bonsoir. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé, mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Alan Moore quand j'ai lu La Brigade. Donc, on a dû déjà vous demander 3 millions de fois... voilà. Est-ce que Alan Moore, le travail d'Alan Moore a pu être aussi un déclencheur, même si ça se ressemble pas sur l'histoire, mais est-ce que ça a pu être un déclencheur, son travail sur la Ligue des Gentlemen Extraordinaires?
Pour être honnête, il est absolument impossible de faire un projet comme celui-là sans se dire comment faire pour que ce soit pas Alan Moore. Quoi. Voilà. D'abord, bon, je crois qu'on est tous assez fans, et moi, en tant qu'écrivain, je considère que c'est un des plus grands écrivains actuels. Il a emmené la bande dessinée, sans parler des super-héros, dans une dimension vraiment exceptionnelle. Il suffit de lire From Hell pour se rendre compte de la qualité littéraire d'Alan Moore. C'est vraiment très impressionnant. Disons que c'est pas Alan Moore qui a inventé le fait de récupérer des personnages existants et de les traiter à nouveau de manière différente, de les moderniser. D'abord, c'est un processus qui a toujours eu lieu. Et en France même, il y a un écrivain qui s'appelle René Réhouven, qui s'était fait une spécialité de ça. Dans des romans, il reprenait des personnages comme le Horla par exemple, et il en faisait un personnage de moderne, quoi, de fiction moderne. Alan Moore a été déterminant parce qu'il nous a montré 2 choses. Il nous a montré avec La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, 1, que c'était possible, c'est-à-dire qu'on pouvait effectivement se réintéresser à la culture européenne et y discerner des traits super-héroïques. Évidemment, lui, son coup de génie, c'est qu'il a pris des personnages ultra connus. L'homme invisible, le capitaine Nemo, le docteur Moreau, le docteur Jekyll, bon, voilà. Et il a montré que c'était des proto-super-héros, voilà. Nous, on a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on a pris des personnages totalement inconnus et oubliés, et on a expliqué pourquoi ils sont oubliés. Mais je suis d'accord qu'il ouvre le terrain en premier. Et puis le deuxième, c'est aussi l'ambition littéraire d'Alan Moore. C'est-à-dire qu'il a été un des premiers scénaristes de bande dessinée à se consacrer vraiment très très fortement, presque toute sa carrière, aux super-héros, avec une ambition littéraire, et politique éventuellement, et esthétique. Et à montrer que les personnages n'étaient absolument pas réductibles à des archétypes infantiles de puissance et de désir de domination, mais qu'au contraire, ils avaient une dimension exceptionnelle, profonde, qu'on pouvait explorer ça comme n'importe quel objet littéraire. Et le simple fait qu'il l'ait fait nous a facilité la tâche, parce qu'il y a un certain nombre d'étapes mentales et culturelles qu'on n'a pas eu à faire grâce à lui. Voilà. Enfin, je précise que ça, c'est un peu une sorte d'usage à contrario. Moi, j'ai beaucoup aimé La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, la BD, quand elle est sortie. J'étais un peu désappointé parce que je tournais autour d'un projet de roman qui s'appelait Metropolis et je me suis dit, bon, ça commence à être sérieusement balayé, ce terrain. Mais ce qui m'a frappé dans La Ligue, c'est que, quelle que soit la noirceur des personnages, le monde est assez solaire, le monde est assez heureux. C'est le monde de l'Europe de la fin du 19e triomphante, l'Europe victorienne, l'Europe de Jules Verne. C'est une Europe radieuse, quoi. Bon, impériale aussi, pour dire les choses. Et donc ce monde s'achève en 1914. Il est évident qu'il s'achève en 1914, comme s'achève le principat de l'Europe en 1914. Et nous, le monde qu'on aborde, c'est le monde de l'entre-deux-guerres. Il est déjà beaucoup plus sombre, beaucoup plus démembré, beaucoup plus fragmenté et en proie à la peur. Et la brigade essaye de traduire aussi graphiquement et littérairement cette différence de climat. Donc la réponse est oui, il est impossible de faire comme si Alan Moore n'existait pas. Mais à partir de là, on s'est pas posé la question, on n'a pas passé chaque épisode à se demander, pourvu qu'on dise pas que ça ressemble à Alan Moore, parce que c'était perdu d'avance. On l'a simplement considéré comme un maître qui avait ouvert le terrain. Voilà.
Alors je vous rappelle que vous pourrez continuer cette passionnante discussion en achetant des milliers d'albums, puisque vous allez dédicacer, je crois, tous les trois, à l'instant, à l'étage, donc vous pouvez tout à fait les retrouver et continuer à discuter avec eux. Je vous remercie.